Alors d'habitude, dans les rencontres de Paray, l'enseignement du samedi 18h est consacré à une préparation pour l'acte de consécration au cœur de Jésus que nous allons poser demain, après la messe de 9h, qui a lieu à la chapelle des Apparitions. Il y aura un temps de louange, puis l'acte de consécration, pour ceux qui le veulent, avec une formule donc qui vous sera donnée, ou que vous avez d'ailleurs dans vos carnets de chant normalement. Et puis, après ça, on reviendra ici pour un temps de questions-réponses. Alors aujourd'hui, cet enseignement sur la consécration, la préparation va recouvrir deux étapes. Là, je vais surtout parler un petit peu de la consécration, c'est très simple, au cœur de Jésus que nous allons faire demain. Et là encore, nous allons méditer cela à l'aide de quelques psaumes, puisque vraiment les psaumes doivent vraiment être un peu l'âme de ces rencontres de Paray-le-Monial de ce week-end. Et ce soir, samedi soir, à la chapelle des Apparitions, il y aura une veillée où nous nous centrerons sur la consécration par les mains de Marie. Donc sur la célèbre consécration, un peu adaptée dans sa version, de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La veillée sera entièrement réservée à cela, ce soir. Alors, se consacrer au cœur de Jésus, c'est un acte libre que nous posons pour confirmer et donner une nouvelle vigueur aux grâces qui sont de toute façon déjà en nous. En fait, nous sommes consacrés à partir du moment de notre baptême. Cette consécration reçoit une intensité nouvelle au moment de notre confirmation. Et à chaque fois que nous recevons la communion eucharistique, normalement, si nous la recevons vraiment dans des bonnes dispositions, avec le maximum d'accueil intérieur, la consécration aussi donc se confirme et s'intensifie. Mais cet acte, donc, est un acte libre par lequel on dit à Jésus, et on s'adresse en fait à son cœur, qu'on désire particulièrement pour cette étape que nous avons à vivre de notre vie, ou de cette étape de l'histoire humaine, ou pour les besoins de l'Église, de faire un acte de surcroît par lequel on confirme qu'on voudrait vivre plus pleinement ce que nous avons déjà reçu à notre baptême, à notre confirmation, et que nous recevons à chaque Eucharistie, et que nous recevons bien sûr à chaque fois que nous nous réconcilions dans le sacrement de réconciliation. Le fondement de notre consécration, qu'elle soit baptismale ou qu'elle soit ponctuelle, avec ce que nous allons faire demain, le fondement est en fait la consécration que Jésus fait de lui-même à son Père. Il est le premier des consacrés. Et on le lit dans sa prière ultime, il y a une prière ultime au Père, juste avant la Passion, dans l'Évangile de Jean. C'est tout le chapitre 17 que nous n'allons pas lire, bien sûr, intégralement. Nous allons prendre juste un verset. Le chapitre 17, c'est vraiment le testament spirituel de Jésus. C'est une prière qu'il adresse cette fois-ci directement au Père. Et une longue prière qu'il adresse au Père. Dans les autres évangiles, ou même dans l'évangile de Jean, Jésus adresse parfois des prières, mais qui sont très courtes au Père. Là, c'est la prière qu'il adresse juste avant d'entrer dans la Passion. Et on pourrait dire que ce sont les paroles de son cœur. C'est son cœur qui parle. C'est la voix de son cœur. Son cœur sera transpercé, et on le lit au chapitre 19 de Saint Jean. Si on fait une analogie avec la liturgie, la messe, où il y a deux parties, la liturgie de la parole et puis la liturgie du sacrement lui-même, la substance même. Le pain qui devient du corps, le vin qui devient le sang, le pain qui devient le corps de Jésus, le vin qui devient le sang de Jésus, et puis la communion, la liturgie sacramentelle, la liturgie eucharistique. Si on fait une analogie et qu'on considère qu'en Saint Jean, il y a comme une sorte de liturgie du cœur, surtout dans les derniers chapitres de son évangile, on pourrait dire que tout le chapitre 17, c'est la liturgie de la parole. Et la liturgie silencieuse, sacramentelle, c'est le transpercement du cœur, au chapitre 19. Deux phases, mais finalement d'un même mystère. Le cœur de Jésus s'ouvre déjà par cette prière qu'il fait, qu'on appelle la prière sacerdotale du Christ, justement, la prière sacerdotale du grand prêtre, et qui commence ainsi. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. » Et puis alors ça continue. Et l'autre parole, dirons-nous, silencieuse, sacramentelle, passive pour Jésus, puisqu'il est déjà mort, mais ô combien efficace, justement. C'est la réelle ouverture, cette fois-ci, physique du cœur par la lance du soldat, d'où jaillissent précisément le sang et l'eau, qui symbolisent les sacrements, les deux sacrements principaux de l'Église. L'eau symbolise le baptême, et la vie dans l'esprit, et le sang symbolise l'Eucharistie, justement. Alors là, au chapitre 17, on peut dire que c'est tout son cœur qui parle au Père. Et bien plus que ce que les paroles nous donnent là dans l'Évangile. C'est une sorte de synthèse de toute sa vie, de toute sa mission, de toute la raison même de son incarnation. On peut dire qu'à ce moment-là habite dans son cœur vraiment tout l'accomplissement, l'accomplissement des Écritures. D'une certaine façon, tous les psaumes sont présents à ce moment-là. Il accomplit. Il accomplit la rédemption par cette prière, avant de l'accomplir physiquement par la passion. Alors le verset qui nous interpelle dans le chapitre 17, c'est qu'il y a deux traductions possibles. La Bible de Jérusalem au verset 19, il y a un seul verset. Au verset 19, « Pour eux je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. » D'autres traductions, justement, diront, et c'est plus proche de notre thématique, « Pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. » Le Fils éternel, en tant que Verbe éternel, n'a pas besoin de se consacrer au Père. Il est l'égal du Père. Tout ce que le Père a lui appartient et tout ce qui lui appartient à lui appartient au Père. Et ils sont unis d'une union indéfectible et cette union elle-même est si forte que c'est une personne, c'est l'Esprit Saint. C'est dans l'Esprit Saint. Donc le Verbe n'a pas besoin de se consacrer. Mais là c'est en tant qu'homme qu'il se consacre. En tant que Verbe incarné, ayant pris la condition d'Adam. Il fait ce que le premier Adam n'a pas fait. Le premier Adam s'est détourné de Dieu. S'est détourné de la soumission à Dieu, qui était sa vocation. Et là, le nouvel Adam, en tant que nouvel Adam, en tant qu'homme, ayant pleinement assumé notre chair, notre condition, comme dit l'Épître aux Philippiens, il n'a pas jugé bon de garder comme un privilège le rang qu'il égalait à Dieu, il s'est dépouillé, il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. et se soumettant jusqu'à la mort sur la croix, s'abaissant plus encore jusqu'à la mort sur la croix. Donc c'est là qu'il se consacre en tant qu'homme, en tant que nouvel Adam, en tant que notre grand prêtre éternel. Alors que Dieu a fait par lui, par le Christ, de nous, comme le dit l'Écriture, l'Apocalypse et la liturgie, tu as fait de nous un royaume de prêtres. Et nous régnerons. Donc la toute première consécration, c'est celle de Jésus. Il se consacre lui-même afin que nous soyons nous aussi consacrés dans la vérité. Et sur le plan de l'histoire du salut, au niveau humain, la deuxième consécration, c'est la Vierge Marie. Elle se consacre totalement à l'œuvre du Seigneur. Et c'est pour ça que nous passons par ses mains. C'est la première consacrée par excellence qui veut vivre pleinement la consécration du Fils au Père. Elle vit sa propre consécration à son propre Fils. Et par le Fils, bien sûr, au Père. Dans une totale soumission à l'Esprit Saint, à l'Esprit du Père et du Fils. Donc, pour eux, je me consacre moi-même afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. La consécration de Marie, lorsqu'elle dit « Je suis la servante du Seigneur », s'inscrit dans la consécration du Fils. La consécration de Jésus est première. Alors oui, vous me direz, mais le chapitre 17, ça vient forcément, c'est, Jésus est adulte, ça vient donc après l'Annonciation. Eh bien, c'est qu'il y a une consécration dont l'Écriture nous parle, une consécration du Verbe qui se fait chair, et que la tradition met sur les lèvres du Christ entrant en ce monde dans l'Épître aux Hébreux, à partir d'un psaume que nous allons lire tout à l'heure, en tout cas les versets qui nous intéressent. Le Verbe de Dieu, le Christ, nous dit l'Épître aux Hébreux, en entrant dans ce monde, donc au moment même de son incarnation. Alors bien sûr, il ne va pas articuler ses paroles, il n'est pas encore capable de parler, mais dès le premier moment de son incarnation, le Christ, empruntant un verset de psaume, dit « Tu n'as pas voulu d'holocauste, etc. » Voilà, « Tu n'en as pas voulu, les sacrifices, tu n'en as pas voulu, mais tu m'as façonné un corps. » En fait, le psaume dit « Tu m'as donné des oreilles ». C'est la Bible, je crois, grecque, mais ça, je n'en suis pas sûr, c'est la traduction grecque qui a changé « oreille » en « corps ».« Tu m'as façonné un corps. » Alors j'ai dit « Voici, je viens ». C'est le « Amen » du Verbe entrant dans ce monde et qui précède forcément le « Amen » de la Vierge Marie, qui le précède logiquement. Du point de vue chronologique, même là, le Verbe a beau dire, en entrant dans le monde, ou qu'il va entrer dans le monde, « Voilà, je viens pour accomplir ta volonté », si la Vierge Marie n'avait pas donné son assentiment, ça ne se serait pas fait. Donc, la consécration de Marie, si vous le voulez, est première dans l'ordre chronologique, mais dans l'ordre logique, c'est déjà l'Esprit du Fils qui la pousse à l'Annonciation à dire « Je suis la servante du Seigneur » pour permettre au Fils qui s'incarne de dire « Me voici, je viens au Dieu pour faire ta volonté. Ta loi me tient aux entrailles. Je viens pour ça. C'est la seule raison de mon incarnation. Je viens pour faire ta volonté. » Alors là, au chapitre 17, il le confirme tout simplement. « Pour eux, je me consacre moi-même à toi. Je confirme ce que j'ai dit, ce que j'étais déjà dit, l'offrande que je t'ai faite au tout début, à l'aurore même de la Nouvelle Alliance. Et maintenant, je le fais pour que mes disciples l'entendent, pour que ce soit audible. Je me consacre pour eux, afin que eux aussi soient consacrés dans la vérité. » Ils entendent ces paroles dans ce discours d'adieu, dans cette prière sacerdotale. Donc, en fait, nous sommes entraînés à entrer dans la consécration que le Fils fait de lui-même, en nous consacrant au cœur de Jésus. Et nous le verrons ce soir, nous sommes entraînés à entrer dans la consécration que Marie fait d'elle-même à son Fils et à travers le Fils au Père. Donc maintenant, il nous faut explorer quelques versets que j'ai glanés un petit peu ici, ici ou là, qui nous aident à entrer un peu plus dans les, je dirais, dans les sentiments du cœur de Jésus. L'idée, c'est pas tellement de trouver des versets qui coïncident ou qui coïncident avec le sujet. Ce serait un jeu intéressant, exégétique. Il s'agit beaucoup plus de ça. Il s'agit d'essayer d'entrer dans les sentiments du cœur de Jésus au moment où il se consacre, à ce moment-là, précis, après le dernier repas, avant d'entrer dans la passion. Les sentiments du cœur de Jésus, dans lequel habitait, dans son cœur, habitait toute l'Écriture. Il ne pouvait pas la dire verbalement d'un coup, comme ça, mais dans son cœur, toute l'Écriture était inscrite, et particulièrement les psaumes qu'il a vécus profondément. Alors tout d'abord, quelque chose qui n'a peut-être pas trait à la consécration directement, mais qui a trait au sacrement dont j'ai parlé, le baptême, la confirmation, la communion, la réconciliation. Puis il y a d'autres, les autres sacrements, l'ordre, le mariage, sacrement des malades, etc. Il y a un psaume qui, de façon étonnante, dans l'Esprit Saint, est comme une sorte d'expression de notre itinéraire spirituel, de notre initiation chrétienne. C'est le psaume 22, entre parenthèses 23. 23 dans la Bible, 22 dans les psautiers. Il est très connu. Le Seigneur est mon berger. Mon berger. Je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Les fameux pâturages, les herbes fraîches. Rappelez-vous ce que dit Jésus au chapitre 10 de l'évangile de Jean, quand il parle du bon pasteur ou de la porte qu'il est. Il entrera par la porte ou il entrera par moi, il trouvera un pâturage. Vous voyez, le pâturage est un peu le symbole du paradis. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Là, nous voyons comme une allusion prophétique, bien sûr à l'insu du psalmiste, qui ne pouvait pas savoir, une allusion prophétique au baptême, à l'eau du baptême. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Maintenant, on entre un petit peu dans une situation moins confortable, un peu de combat. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Ça, ce serait le sacrement de la confirmation. Le sacrement de la confirmation est donné, alors à celui qui le reçoit, à l'âge de raison, à un âge quand même adulte. En fait, au moment où il va entrer vraiment dans la vie chrétienne, où il va entrer en tant que vocabulaire un petit peu dépassé, mais très réel, il va entrer comme soldat du Christ dans la vie du monde. Il va combattre. En fait, le sacrement de confirmation correspond en fait au baptême de Jésus au Jourdain, quand l'Esprit descend sur lui. Et dans la puissance de l'Esprit, Jésus va combattre. Tout de suite après, il va au désert où il va être tenté. Donc là, si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, j'ai en moi la force de l'Esprit qui m'aide à combattre, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Là aussi, peut-être, il est question d'ennemis. C'est encore le combat de la confirmation, mais c'est surtout la table eucharistique. Tu répands le parfum sur ma tête. Là, c'est encore la confirmation, l'onction qu'on reçoit, l'huile que le confirmant reçoit, justement, cette onction. Tu répands le parfum sur ma tête, c'est la confirmation. Ma coupe est débordante. Donc là, vous avez dans le verset 5 à la fois la confirmation qui s'intensifie, mais surtout l'Eucharistie. Tu prépares la table pour moi, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. On pourrait éventuellement y voir si on veut, c'est une interprétation, un verset qui touche peut-être le sacrement du mariage. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Dans la mentalité donc de juive ou d'Israël, on ne pouvait pas imaginer grâce et bonheur sans une famille. La famille était le signe de la bénédiction. C'était une malédiction de ne pas être marié. Et de ne pas, ou alors c'est une considéré comme au moins un châtiment, peut-être, une opprobre d'être stérile, de ne pas avoir d'enfant. C'est pour ça qu'Élisabeth dit qu'elle se cachait pour ne pas montrer son opprobre aux autres, jusqu'au jour où elle a conçu Jean-Baptiste en son sein. Donc, grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il y a certainement de la dimension familiale et de la fécondité aussi, de la descendance, comme on l'a lu tout à l'heure, en route vers Romain, grâce et bonheur t'accompagnent tout le jour. Enfin voilà, heureux es-tu, à toi le bonheur, ta femme sera comme une vigne généreuse, tes fils comme des plants d'olivier, etc. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Donc grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie, c'est la famille ça. Et enfin, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Ça, c'est la promesse de l'éternité, de la vie éternelle, qui sera le fruit de tous ces sacrements. La maison du Seigneur. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures, dit Jésus, je pars vous préparer une place. Eh bien voilà, j'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Donc ce psaume 22 est un très beau pèlerinage à travers notre propre itinéraire spirituel à travers les sacrements. Maintenant, je vais lire le psaume, une partie du psaume 23, entre parenthèses 24, du verset 1 à 6. D'abord, une sorte de louange à Dieu, de reconnaissance de sa totale suprématie. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Donc il est le Seigneur, il est le Créateur. Et c'est très théologique ce psaume-là déjà. Les théologiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, nous disent que si le monde tient ou qu'il existe, c'est qu'il s'agit d'une création continuée et continuelle. Si le Seigneur ne soutenait pas par sa parole la création, y compris dans son évolution et dans sa croissance, immédiatement la création retournerait au néant. Il n'y a pas une espèce de rampe de lancement quand Dieu dit qu'il y ait la terre, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait les luminaires, qu'il y ait les mers, etc. Il en fut ainsi, et après non, pas du tout. Dieu continue à soutenir par sa parole créatrice la création et chacun de nous. Chaque seconde de notre vie est soutenu par la parole créatrice de Dieu. S'il cessait de parler, d'une certaine façon, on retournerait complètement au néant. Donc c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Et maintenant, les conditions de notre consécration. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? Le temple, l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. D'où la nécessité pour se consacrer d'avoir recours au sacrement de réconciliation. Pas forcément immédiatement avant la consécration, mais ça peut être, si on s'est confessé récemment, c'est bien. Et puis si on a l'intention de se confesser dans les semaines qui viennent, c'est bien aussi. Donc l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles et ne dit pas de faux serments. Alors l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, par excellence, c'est d'abord Jésus. Lui, il est vraiment sans péché. Et nous, par le sacrement répété de réconciliation, nous pouvons peu à peu participer à sa propre sainteté et gravir la montagne du Seigneur et nous tenir dans le lieu saint, en l'occurrence dans son cœur, pour nous y consacrer. Donc l'homme au cœur pur, aux mains innocentes, il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Par l'acte de consécration, nous disons au Seigneur, nous lui exprimons notre désir de le chercher sans cesse, toujours plus. Il y a toujours une progression, il n'y aura jamais une stagnation tant qu'on est ici-bas. On ne sera jamais arrivé au but. Donc voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. C'est ça aussi notre consécration. On a soif de voir la face de Dieu et donc on monte, on gravit la montagne du Seigneur. Ça c'est toute notre vie jusqu'au jour où on arrivera enfin au seuil du lieu saint qui est la Jérusalem céleste et où on verra sa face. Et combien ce psaume devait vivre dans la mémoire de Jésus ? Qui peut gravir la montagne du Seigneur, l'homme au cœur pur, se tenir dans le lieu saint ? Dans la prière sacerdotale, quand il dit, voilà, maintenant moi je viens vers toi, ô Père. Eux sont dans le monde, mais moi je viens vers toi. Je monte vers toi. Nous poursuivons notre pèlerinage par rapport à la consécration, toujours à partir des psaumes. Alors maintenant, nous allons voir le psaume 39 dans la numérotation liturgique, 40 dans la numérotation biblique. Je regarde juste quelque chose, je vérifie. Non, excusez-moi, je me trompe. Si, c'est bien ça. Voilà. Versets 7 à 11. Oui, bien évidemment. Justement, c'est la partie que cite l'Épître aux Hébreux. Donc là, c'est le psalmiste qui parle. Dans la lecture chrétienne, c'est le Christ qui parle. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Alors que la Bible de la Septante dit « Tu m'as façonné un corps. » Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit « Voici, je viens. » Qu'est-ce que je viens de citer là justement dans la prière sacerdotale ? Jésus dit, voici que je viens, Père, je viens vers toi. Il le dit à un moment crucial, où il se consacre alors vraiment parce qu'il va entrer dans la passion. Il va entrer dans le sacrifice par excellence. Donc là, alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Et par notre consécration, on peut espérer, on peut désirer d'avoir ce sentiment tellement fort. Cette sorte de sentiment presque exclusif. Je ne tiens à plus rien sur la terre sinon à ce que ta loi vraiment me remplisse. Elle me tient aux entrailles. La fin de Dieu, la fin de sa volonté, la soif de Dieu. Du coup, je deviens prêtre avec le grand prêtre. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Alors ça d'abord, ça concerne le Verbe qui vient dans le monde, mais alors Jésus, dans son ministère, il a parlé aux foules. Ce verset s'applique à lui idéalement. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Même quand il y avait des grands risques. La preuve, souvent on cherchait à le lapider après telle ou telle parole qui a terriblement choqué. Quand il dit « Je suis le Fils de Dieu » ou « Mon propre Père », etc. Voilà. Eh bien, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais, mais nous, en vertu de notre consécration baptismale, renouvelée et réactualisée par la consécration au Sacré-Cœur, nous devenons prêtres dans le grand prêtre. Nous confirmons notre identité de royaume de prêtres. Je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Alors, c'est pas toujours facile. Combien de fois en confession, je reçois cet aveu. Je n'ai pas été capable d'annoncer Jésus dans mon milieu de travail. J'ai pas osé, j'ai été lâche. J'étais comme bloqué, paralysé, etc. Là, justement, cette consécration au cœur de Jésus peut être une profonde guérison, une libération. Pour que je puisse dire à mon tour, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Et là, il confirme encore, je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité et ton salut, j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. C'est notre vocation, la mission, enracinée dans l'adoration. La consécration au cœur de Jésus nous entraîne à l'adoration de sa présence réelle, mais elle nous entraîne ensuite au témoignage. Et à l'évangélisation. Et alors au plus fort de la passion et de la souffrance et des outrages dans la cour du grand prêtre, quand le grand prêtre l'interroge, eh bien Jésus dit « Pourquoi m'interroges-tu ? J'ai parlé au grand jour, je n'ai pas caché. Tous ont entendu. Demande à ceux qui sont là. Eux savent ce que j'ai dit. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur, je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. » Bien sûr que ce verset habitait le cœur de Jésus, aussi pendant sa passion. Donc voilà en quoi consiste aussi la consécration que Jésus fait de lui-même. Pour eux, je me consacre, moi-même, à toi, Père, afin qu'ils soient eux aussi consacrés dans la vérité. Alors, on va quand même avancer maintenant. On va faire un grand saut. On va passer du psaume 39 au psaume 115, voyez. L'idée, c'était un petit peu, entre parenthèses, 116. Alors là, c'est le psalmiste qui parle. Je prends versets 12 à 14 d'abord. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? C'est ça aussi notre consécration. Regardons toutes les merveilles qu'il a fait dans nos vies, à commencer par le don de la foi, et pour beaucoup d'entre nous, de la conversion. Où j'ai encore eu un témoignage tout à l'heure sur la route d'un recommencement, qui est extraordinaire ça. Les recommençants. Tout le bien qu'il m'a fait. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait ? Alors, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Mes promesses, ce sont mes promesses baptismales. Mais dans ma consécration au cœur de Jésus, implicitement, je dis, oui Seigneur, je vais être plus fidèle maintenant que je ne l'ai été jusqu'ici aux promesses de mon baptême et de ma confirmation. Mais surtout, ces versets, regardant et contemplant le Christ, instituant l'Eucharistie, et qui dit en notre nom, comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait, à moi la tête du corps, la tête de l'humanité. Cette humanité, le Seigneur, le Père qui a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour le sauver. Et la tête parle ici au nom du corps total, de l'Église. Alors que fait le Christ, l'institution de l'Eucharistie ? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Et à notre tour, alors il est vrai que ce verset a quelque chose de plus spécifiquement sacerdotal, avec la coupe, bien sûr, c'est le prêtre d'abord qui dit ça. Mais par analogie et par solidarité, par union à l'intérieur même du corps, par le fait que nous sommes tous un peuple de prêtres, un peuple sacerdotal, un peuple royal, tous nous pouvons dire « J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. » Donc voilà un élément de la consécration que nous ferons demain aussi. Nous, les laïcs ne vont pas élever substantiellement la coupe du salut, mais ils sont devant. Sans le « Amen » de l'Assemblée, qu'est-ce que serait le sacrifice du Christ ? Il faut une réponse. Et le peuple répond « Amen ». Surtout dans la grande doxologie, par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, etc. Et puis l'anamnèse, c'est le peuple qui répond. Il est grand le mystère de la foi, où quand nous mangeons ce pain justement et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi, nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, etc. Donc c'est un seul et même acte sacerdotal, mais partagé entre deux vocations qui se distinguent. Les prêtres agissent au nom du Christ tête et les fidèles répondent au nom du Christ total, du corps de l'Église, de tous ses membres. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, j'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Vous pouvez tout à fait le dire vous-même aussi dans votre acte de consécration ou quand vous lisez ce psaume simplement. Et ensuite, le verset 17-19, qui s'applique au Christ de façon suréminente, mais qui s'applique du coup à nous par participation. « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. » N'oubliez pas que l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Le terme grec « Eucharistie » signifie « action de grâce », signifie « merci ». En grec moderne, je crois que « Eucharistie » Eucharistai, ou je sais pas quoi, signifie merci, tout simplement. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur au milieu de Jérusalem. En fait, c'est toute notre participation à la messe, là, entièrement. Vous relirez ces versets. « Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur, gloire à toi Seigneur Jésus, je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui devant tout son peuple, donc je dis Amen, voilà, à l'entrée de la maison du Seigneur au milieu de Jérusalem. » À chaque messe, nous sommes au seuil de la Jérusalem céleste en fait, déjà en communion profonde avec toute la cour céleste qui y est déjà. Mais nous sommes encore aussi au milieu de Jérusalem, au milieu du temple, dans l'Église encore militante, c'est-à-dire l'Église en pèlerinage sur cette terre. Donc voilà un psaume magnifique pour entrer dans la consécration. Si vous avez un petit peu le temps, ce soir, si vous prenez un temps d'adoration, pour vous préparer à la consécration, et surtout une fois qu'on aura fait la consécration à Marie, vous pouvez reprendre tous ces versets, vous voyez, ce ne sera pas très long. Alors évidemment, le psaume par excellence qui nous fait entrer dans les sentiments même ou dans la prière de Jésus, dans la prière permanente, il priait sans cesse. Et quand les autres rentraient chez eux, lui, il allait dans la montagne pour prier. Il passa la nuit à prier Dieu, nous dit Saint-Luc. Et quand il n'était pas dans le temple, dès le soir venu, il se retirait dans le mont des sur le mont des Oliviers pour être seul avec son père, ou alors avec ses disciples. Alors le psaume par excellence, qui est justement le psaume le plus long du psautier, alors il n'est pas question que nous le lisions, c'est le psaume 118. Entre parenthèses, 119. Qui est composé de tout un nombre de strophes de 8 versets très symétriques chacun, chaque strophe. Je me propose seulement de lire la première strophe, puis la dernière. C'est ce à quoi nous aspirons. Ce que dit le psaume premier, justement. Heureux celui qui murmure la loi du Seigneur nuit et jour. C'est ça. Alors, on le met d'abord sur les lèvres du psalmiste, de David, du peuple d'Israël, de tous les prophètes. On le met de façon suréminente sur les lèvres du Christ et de la Vierge Marie, et puis sur les lèvres de toute l'Église et de chacun des croyants. On est tous unis dans ce désir d'entrer pleinement dans la volonté de Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Ça commence par une béatitude, hein? Heureux, bienheureux. Donc, heureux les hommes intègres dans leur voie qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Jamais ils ne commettent d'injustice, ils marchent dans ses voies. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voies s'affermir à observer tes commandements. Ainsi, je ne serai pas humilié quand je contemple tes volontés. D'un cœur droit, je pourrai te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe, ne m'abandonne pas entièrement. Chacun de nous, nous désirons, dans notre être chrétien, connaître cette sorte de béatitude, profondément paisible, d'être enraciné, comme dit un psaume, en Dieu seul mon repos, en lui seul mon repos. Sachant qu'il m'instruit au plus profond de mon cœur et que je lui réponds selon son désir. Voilà, amour pour amour. Alors ça aussi, alors c'est tout le psaume qui est comme ça. Et quand on arrive à la fin du psaume, donc, que je le retrouve. Alors, où est-ce que j'en suis, là? Ah oui, là je l'ai perdu du coup. Il est tellement long que je l'ai perdu. Oui, mais je ne trouve plus la page. Oui, c'est bon, on arrive là. Voilà, la dernière strophe donc que je vais lire, qui n'exclut pas non plus la souffrance. Que mon cri parvienne devant toi, éclaire-moi selon ta parole, Seigneur. Que ma prière arrive jusqu'à toi, délivre-moi selon ta promesse. Que chante sur mes lèvres ta louange, car tu m'apprends tes commandements. Rappelez-vous dans le Miserere, qu'on a étudié hier, dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Que ma langue redise tes promesses, car tout est justice en tes volontés. Que ta main vienne à mon aide, car j'ai choisi tes préceptes. C'est un constant acte de liberté que le psalmiste pose dans sa grande faiblesse, dont il est conscient, dans son indigence, dans sa fragilité. Mais il dit oui. Je veux contempler tes volontés. Continue à m'enseigner. Ne m'abandonne pas. Mon cœur profond, ma volonté profonde, mon désir profond, c'est d'être enraciné dans ta volonté. J'ai le désir de ton salut, Seigneur, car ta loi fait mon plaisir. Que je vive et que mon âme te loue, tes décisions me soient en aide. Et puis alors là, c'est une exception dans tout le psaume. Il y a ce qu'on appelle des sticks. Pour chaque verset, il n'y a que deux sticks, c'est-à-dire deux lignes. Mais là, il y en a trois. Juste à la fin du psaume, un petit cri de détresse, comme le miséréré, pitié pour moi. Je m'égare, brebis perdue. Viens chercher ton serviteur, je n'oublie pas tes volontés. On pense bien sûr à la brebis perdue que Jésus va aller chercher, enfin que le bon pasteur va chercher dans la parabole. Une brebis qui, sur les 100, il y en a une qui s'égare, le bon pasteur va tout de suite aller à sa recherche, la brebis perdue. Donc là, je m'égare, brebis perdue, chacun de nous peut le dire ça. Viens chercher ton serviteur, je n'oublie pas tes volontés. Donc ces derniers versets sont aussi admirables. Dans notre temps d'adoration, par exemple. Ce psaume est tellement, essentiel dans la vie du croyant que l'Église le dit intégralement, pratiquement de façon enchaînée, jour après jour. Ce psaume est récité à partir du mardi de la première semaine, office du milieu du jour. Et pratiquement, c'est toujours dans l'office du milieu du jour qu'il est donné, comme premier psaume. Il y a des exceptions, il y a certaines strophes qui sont données aux vêpres ou à d'autres moments, effectivement. Mais dans l'espace de 4 semaines, l'Église veut qu'il soit récité de façon consciente, en tant qu'un tout, qu'une confession, un tout organisé. Donc comme je vous l'ai dit, spécialement comme premier psaume de l'office du milieu du jour. Alors, il nous reste encore des courts passages à voir.
Est-ce que ça veut dire les habitations qu'il y a en haut, là, juste avant, par exemple,
ça, c'est l'alphabet hébraïque. Voilà, c'est le Aleph, Bet, Gimel, c'est l'alphabet hébraïque. Alors, très intéressant, merci de la question, parce qu'en hébreu, en fait, voilà, en hébreu, chaque verset commence avec cette lettre-là, avec la lettre correspondance. Donc c'est une sorte de virtuosité un petit peu. Il faut trouver, chaque verset commence par le Aleph, ensuite par le Bet, ensuite par le Gimel, et voilà, etc. Donc c'est alphabétique, c'est tout l'alphabet hébraïque qui est déroulé là. Donc il y a autant de strophes qu'il y a de lettres dans l'alphabet hébraïque. Voilà. Le psaume 130, maintenant, entre parenthèses 131, là nous sommes dans des psaumes des montées, de pèlerinage, dont nous avons récité quelques-uns pendant le pèlerinage à Romée. Alors là, pour la consécration, surtout lorsqu'on fait notre consécration à Marie, puis la consécration à Jésus, c'est tout à fait notre condition qui est là. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein ni merveille qui me dépasse. On fait d'abord un acte d'humilité. Je n'ai pas une espèce d'ambition de me surpasser. Je ne suis pas un héros grec. Je ne suis pas Prométhée. Voilà. Je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Je me fais comme un tout petit enfant, comme dira Jésus. Celui qui ne se fait pas petit comme un tout petit enfant ne pourra pas entrer dans le royaume. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse, mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère, attend le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Ça, c'est l'esprit de notre consécration aussi. C'est-à-dire, je ne me consacre pas pour avoir du succès, pour que toutes mes entreprises réussissent, je me consacre simplement parce que je veux être dans l'humilité du cœur de Jésus, doux et humble. Qui a complètement fait sienne, justement, il savait très bien qu'il était le Seigneur, qu'il était le Créateur, que tout pouvoir lui sera donné, et lui a été donné après sa résurrection, mais Jésus, mon cœur, mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, je n'ai pas le cœur fier, je ne suis pas ambitieux, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, Je ne parle pas en mon nom, je ne me rends pas témoignage à moi-même, mais c'est le Père qui me rend témoignage, c'est le Père qui me dit ce que je dois dire, c'est le Père qui m'enseigne ce que je dois faire. Vous voyez, c'est toute l'humilité. Il ne vient pas comme un fils conquérant, il vient vraiment comme un fils très aimant, comme un nouvel Adam qui endosse l'humilité que le premier Adam n'a pas voulu endosser. Donc je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. J'ai dû, a dû se souvenir comme ça, comme il était tout petit enfant, comme il était tout contre sa mère. Attends le Seigneur Israël maintenant et à jamais. Voilà. Et enfin, je crois que, oui, il y a encore deux psaumes que je voudrais voir avec vous. Qui ne touche peut-être pas directement la consécration, mais les psaumes des montées. C'est vrai que le peuple d'Israël, lorsqu'il montait trois fois par an à Jérusalem, avec toutes ces étapes signifiées par les psaumes, et ensuite qu'il célébrait la fête à Jérusalem, que ce soit la Pâque, la Pentecôte, ou plus tard la fête des Tentes, en automne, il repartait. Mais il voulait que quelque chose reste. Nous, alors je ne sais pas, l'analogie, nous on allume un cierge avant de partir, pour qu'il reste quelque chose de notre prière, de notre offrande. Et là, c'est très émouvant, le peuple s'adresse avant de partir aux ministres, aux chantres, aux lévites, qui eux vont rester dans le temple, qui restent dans le temple pour accueillir les pèlerins et pour offrir tout ce qu'ils ont offert. Et c'est là qu'il y a le psaume 133, entre parenthèses 134. Et c'est le peuple là qui parle aux serviteurs. Vous tous bénissez le Seigneur, vous qui servez le Seigneur, qui veillez dans la maison du Seigneur au long des nuits. Levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur. Levez les mains en notre nom. Là, c'est un acte sacerdotal qu'il demande. Levez les mains en notre nom parce que nous partons. Nous rentrons, qui en Galilée, qui je ne sais pas où, voilà, levez les mains vers le sanctuaire et bénissez le Seigneur, que le Seigneur te bénisse de Sion. Ça c'est le pèlerin qui demande que cette bénédiction, grâce aux servants qui sont dans le temple, que le Seigneur, que la bénédiction accompagne les pèlerins qui rentrent chez eux. Que le Seigneur te bénisse de Sion, lui qui a fait le ciel et la terre. Donc voilà, il y a une prière de nuit qui a inspiré l'Église pour les matines ou pour les vigiles. Dans certains monastères, on se lève la nuit pour prier. Et là, le peuple d'Israël demandait aux servants donc de prier pour eux, d'offrir sans cesse les fruits de ce pèlerinage. Mais alors le grand prêtre par excellence qui est Jésus, il passa la nuit à prier Dieu. Le jour, il exerçait son ministère, mais la nuit, il se retirait. Comme grand prêtre seul avec son Père. D'ailleurs, ce psaume qu'on lit, c'est le deuxième psaume de l'office des complis du samedi. Tous les samedis, on lit ce psaume-là. Eh bien, le bréviaire a mis en italique, justement, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu, justement. Il l'applique à Jésus. Ça. Donc ça aussi, c'est un petit peu notre consécration. Par notre consécration, nous sommes un petit peu garants de toutes les prières qui montent à partir du monde, dans l'Église. Nous les faisons nôtres, nous les portons. Lorsque nous disons le chapelet avec des intentions, nous portons la prière de ceux qui comptent sur nous, et puis de ceux que nous ne connaissons pas, du monde entier, de toutes les nations. Donc nous sommes à notre tour les servants du temple, de ce nouveau temple qu'est l'Église, et de ce temple particulier qu'est le cœur de Jésus, dans lequel nous entrons mystérieusement lorsque nous nous consacrons. Voilà, dernière citation encore. Oui, alors là, bien sûr, c'est une prière, une supplication, qui concerne aussi cette consécration, au psaume 140, en numérotation biblique 141. Là, c'est une liturgie. Et d'ailleurs, l'Église a pris certains versets pour des actes liturgiques précis. Je lis simplement les versets 1 à 4. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Ça, c'est un verset qui revient souvent dans la liturgie, justement. À commencer par un des couplets du chant de ce qu'on appelle le lucernaire, joyeuse lumière. Que ma prière devant toi, Seigneur, s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. Donc voilà. Alors là, il supplie de pouvoir se consacrer, d'être capable de se consacrer. Il est conscient de sa misère. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, que ma prière te soit agréable. Et mes mains comme l'offrande du soir. Comme l'offrande du soir, c'était un acte sacrificiel dans le temple. Il y avait une offrande du soir. On lit ça donc dans les nombreuses indications, instructions, dans le livre des Nombres, Lévitique, etc. Toutes les instructions pour les sacrifices. Mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Veille au seuil de ma bouche. Ça veut dire, Seigneur, garde-moi, puisque je veux me consacrer, garde-moi du péché. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Garde-moi dans ce monde de péché, dans ce monde qui gît encore, comme dit Jésus, sous le pouvoir du mauvais. Nous ne sommes pas du monde, nous sommes dans le monde, comme ferment, mais nous ne sommes pas du monde. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Et donc, que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Voilà une autre attitude, peut-être d'autres sentiments, une autre approche humble pour demander que notre consécration de demain soit agréée, voilà, et qu'elle porte vraiment tout son fruit.